Chapitre 1er. Le début du journal de M. Razumov a trait à l'assassinat d'un homme d'État éminent, événement caractéristique de la Russie moderne et plus caractéristique encore de la corruption morale d'une société opprimée où les plus nobles aspirations de l'humanité, désir de liberté, patriotisme ardent, amour de la justice, sens de la pitié, fidélité même des âmes simples, sont livrés aux frénésies de la haine et de la crainte, compagnes inséparables d'un despotisme inquiet. Le fait dont je veux parler est l'attentat, couronné de succès, contre la vie de M. de P., président de la fameuse commission de répression d'il y a quelques années, et ministre d'État investi de pouvoirs extraordinaires. Les journaux ont fait assez de bruit autour de ce personnage fanatique dont la poitrine étroite était serrée dans un uniforme brodé d'or. Dans sa figure de parchemin ridé, des yeux sans éclat s'abritaient derrière des lunettes, et la croix de l'ordre de Saint-Procope pendait à son cou décharné. À une époque, si vous vous en souvenez, il ne se passait pas de mois sans que son portrait ne parût dans une des revues illustrées d'Europe. Il servait la monarchie en emprisonnant, en exilant, ou en envoyant à l'échafaud hommes et femmes, jeunes et vieux, avec une activité impitoyable et toujours égale. Dans son acceptation mystique du principe d'autocratie, il s'était appliqué à extirper du pays les derniers vestiges de ce qui pouvait, dans les institutions publiques, rappeler la liberté, et son impitoyable persécution de la génération nouvelle semblait viser à la destruction même de tout espoir de liberté. On a dit que ce personnage exécré n'avait pas assez d'imagination pour concevoir la haine qu'il inspirait. C'est chose à peine croyable, mais le fait est qu'il prenait très peu de précautions pour sa sécurité. Dans le préambule d'un document officiel fameux, il avait un jour déclaré que la pensée de la liberté n'était jamais apparue dans les actes du Créateur. La multitude des avis ne pouvait amener que révolte et désordre. Et désordre et révolte sont des péchés dans un monde créé pour l'obéissance et la stabilité. Ce n'est pas la raison, mais l'autorité qui exprimait l'intention divine. Dieu était l'autocrate de l'univers. L'auteur d'une telle déclaration se croyait peut-être protégé par le ciel, lié envers l'impitoyable défenseur de l'autocratie sur cette terre. Il est probable que la vigilance de la police l'avait sauvé bien des fois. Mais lorsqu'au jour fixé, il rencontra son destin, aucune précaution des autorités compétentes n'aurait pu le sauver. Elles ne surent rien de la conspiration tramée contre la vie du ministre, ne reçurent de leurs informateurs ordinaires aucun avis de complot, n'eurent vent d'aucun symptôme, d'aucun mouvement suspect, d'aucune présence dangereuse. M. de P. se rendait au chemin de fer, dans un traîneau découvert attelé de 2 chevaux, avec un valet de pied et un cocher sur le siège. La neige, accumulée toute la nuit, rendait lourde au pied des chevaux la chaussée, non déblayée encore à 7 heures matinales. Elle continuait à tomber à gros flocons. Mais on avait dû observer et signaler le traîneau. Comme l'attelage tirait à gauche pour prendre un tournant, le valet de pied remarqua un paysan qui marchait lentement au bord du trottoir, les mains dans les poches de sa touloupe en peau de mouton, et les épaules remontées jusqu'aux oreilles sous l'averse de neige. Lorsque le traîneau arriva à sa hauteur, le paysan se retourna brusquement et leva le bras. Il y eut au même instant un choc terrible et une détonation assourdie par la masse des flocons. Les 2 chevaux gisaient déchiquetés sur le sol et le cocher précipité de son siège avec un cri aigu était mortellement blessé. Le valet de pied, seul survivant du drame, n'eut pas le temps de distinguer le visage de l'homme à la peau de mouton qui avait fui après avoir jeté sa bombe. Mais on suppose qu'en voyant surgir autour de lui, dans la neige, une quantité de gens accourus sur le lieu de l'explosion, il jugea plus prudent d'y revenir avec eux. En un temps incroyablement court, une foule frémissante s'était assemblée autour du traîneau. Le ministre-président sortit indemne de la voiture et descendu dans la neige profonde, se tenait près du cocher qui râlait et répétait à la foule de sa voix faible et sans timbre « Je vous prie de vous écarter. Pour l'amour de Dieu, je vous prie, braves gens, de vous écarter. » C'est alors qu'un jeune homme de haute taille, immobile jusque-là sous une porte cochère à deux maisons plus bas, s'avança rapidement dans la rue et lança une seconde bombe par-dessus la tête des badauds. L'engin frappa à l'épaule le ministre-président penché sur son serviteur mourant et, tombant entre ses pieds, fit explosion avec une violence effroyable. Il coucha mort sur le sol le ministre, acheva le blessé et réduisit en miettes, en un clin d'œil, le traîneau vide. La foule se dispersa avec un cri d'horreur et s'enfuit dans toutes les directions. Seuls restaient sur place les morts et les mourants qui gisaient près du ministre-président, et deux ou trois blessés qui tombèrent à quelque distance. La première explosion avait, comme par enchantement, fait assembler une foule. La seconde transforma aussi rapidement la rue en désert sur une étendue de plusieurs centaines de mètres. Les gens regardaient de loin, à travers le rideau de neige, le monceau de cadavres entassé près de la carcasse des deux chevaux. Personne n'osa s'approcher à nouveau, avant l'arrivée d'une patrouille de cosaques accourus au galop. Sautant à bas de leurs chevaux, les soldats commencèrent à retourner les morts. Parmi les victimes innocentes que la seconde explosion avait couchées sur le sol, on releva un cadavre revêtu d'une touloupe de paysan en peau de mouton. Mais ses traits étaient méconnaissables, et l'on ne trouva absolument rien dans les poches de ses pauvres vêtements. Ce fut le seul corps dont l'identité ne put être établie. Ce jour-là, M. Razumov, levé à son heure ordinaire, avait passé la matinée à l'université, suivant les cours et travaillant quelque temps à la bibliothèque. Il entendit confusément parler de bombes et d'attentats à la cantine des étudiants, où il avait coutume de prendre son repas de 2 heures. Mais ce bruit n'était fait que de chuchotements, comme il sied à une table de Russie, où il n'est pas toujours prudent, surtout pour un étudiant, de paraître apporter un intérêt trop vif à des bruits d'une certaine nature. Razumov était de ces hommes qui, vivant à une époque de perturbations politiques et d'inquiétudes mentales, se cramponnent instinctivement à la vie normale et terre à terre de chaque jour. Il avait conscience de la tension émotive de son époque, et savait même y prendre une certaine part. Mais il s'intéressait avant tout à son travail, à ses études et à son propre avenir. Officiellement et pratiquement sans famille, car la fille de l'archiprêtre était morte depuis longtemps, il n'avait subi, dans le développement de ses opinions ou de ses sentiments, aucune influence familiale. Il était aussi isolé dans le monde qu'un nageur perdu au milieu d'une mer immense. Le nom de Razumov n'était qu'une étiquette attachée à un individu solitaire. Il n'y avait nulle part d'autres Razumov ayant rien de commun avec lui. Sa plus proche parenté était celle que lui valait sa qualité de Russe, et c'est à cette seule qualité qu'il pouvait demander la réalisation ou l'envol des espoirs qu'il attendait de la vie. Cette immense famille connaissait les tortures des dissensions intestines, et il avait horreur de ces dissensions, comme un homme affable qui recule à l'idée de prendre nettement parti dans une violente querelle entre proches parents. Tout en marchant, Razumov songeait qu'il en avait fini maintenant avec les matières du prochain examen, et qu'il pourrait dorénavant consacrer son temps au sujet du concours des prix. Il convoitait la médaille d'argent offerte par le ministre de l'Instruction, à qui seraient soumis directement les noms des compétiteurs. Le simple fait d'y prétendre serait tenu pour méritoire en haut lieu, et le gagnant du prix pouvait espérer, au sortir de l'université, un poste d'importance dans l'administration. L'étudiant Razumov, dans un élan d'enthousiasme, oubliait les dangers qui menacent la stabilité des institutions d'où dépendent récompenses et postes d'honneur. Mais, au souvenir du lauréat de l'année précédente, Razumov, le jeune homme sans famille, se sentit dégrisé. Il se trouvait avec quelques autres étudiants dans la chambre de leur camarade au moment où ce dernier avait reçu l'avis officiel de son succès. C'était un garçon tranquille et simple. « Excusez-moi, » avait-il dit avec un léger sourire en prenant sa casquette. « Je sors pour faire monter quelques bouteilles de vin. Mais il faut d'abord que j'envoie une dépêche chez moi. Quel festin mes vieux vont offrir à tous leurs voisins, à 10 lieues à la ronde !» Razumov se disait qu'il n'avait rien de tel à attendre du monde, et que personne ne se réjouirait de son succès. Mais il n'en ressentait aucune amertume contre son noble protecteur, qui n'était pas un hobereau de province, comme on le croyait généralement, mais bien en fait le prince K lui-même. C'était un homme qui avait fait un jour grande figure dans le monde, mais n'était plus maintenant, ses jours de splendeur passés, qu'un vieux sénateur invalide et goutteux. Il menait une vie brillante encore, mais plus rangée, avec ses jeunes enfants et une femme aussi aristocratique et aussi fière que lui-même. Dans toute son existence, Razumov n'avait eu qu'une seule fois l'honneur de se trouver en présence du prince. On avait donné à cette entrevue l'apparence d'une rencontre fortuite dans le bureau du petit avoué. Mandé chez l'homme d'affaires, Razumov trouva un jour un étranger, un grand personnage à mine aristocratique dont le visage s'ornait de favoris gris et soyeux. L'homme de loi, chauve et chafouin, fit signe à l'étudiant. « Entrez, entrez, monsieur Razumov, avec une sorte de cordialité ironique. » Et se tournant avec déférence vers l'étranger de marque, « Je vous présente un de mes pupilles, Excellence, un des meilleurs étudiants de sa faculté à l'université de Pétersbourg. » À son immense surprise, Razumov se fit tendre une main blanche et fine. Il la prit avec confusion, elle était douce et molle, et entendit un murmure de condescendance où il distingua seulement les mots de « satisfaisant » et « persévéré ». Mais il ressentit une impression plus stupéfiante encore, en sentant tout à coup, avant qu'elle ne lui fût reprise, une pression nette de la main élégante, une pression légère comme un signe secret. L'émotion de ce geste fut terrible pour Razumov, qui sentit son cœur sauter dans sa gorge. Lorsqu'il leva les yeux, le personnage aristocratique, écartant d'un geste le petit avoué, avait ouvert la porte et sortait de la pièce. L'avoué fourragea quelques instants dans ses papiers, puis, brusquement, « Savez-vous quel était cet homme ? » demanda-t-il. Razumov, dont le cœur continuait à battre violemment, fit un geste de tête silencieux. C'était le prince de K. Vous vous demandez ce qu'il pouvait bien faire dans le trou d'un pauvre rat de loi comme moi, n'est-ce pas ? Ces grands personnages ont parfois des curiosités sentimentales, comme le commun des mortels. Mais si j'étais à votre place, Kirillo Sidorovitch, poursuivit-il, avec un regard oblique et un ton d'emphase particulière sur le patronyme, je ne me targuerais pas en public de cette présentation. Ce ne serait pas prudent, Kirillo Sidorovitch. Oh non, certes, ce serait même compromettant pour votre avenir. Les oreilles de Razumov brûlaient comme du feu, et ses yeux s'embrumaient. « Cet homme, se disait-il en lui-même, lui. » C'est par ce monosyllabe qu'il prit dès lors l'habitude de désigner dans son esprit l'étranger au favori gris de soie. De ce jour aussi, il regarda avec intérêt, au cours de ses promenades dans les quartiers élégants, les chevaux et les voitures magnifiques conduits par le cocher à la livrée du prince K. Il vit une fois sortir la princesse qui faisait les emplettes dans les magasins, suivie de deux fillettes dont l'une était plus grande que l'autre de près d'une tête. Leurs cheveux blonds tombaient librement sur le dos à la manière anglaise. Elles avaient des yeux rieurs, des manteaux, des manchons et de petites toques de fourrure exactement semblables. Leurs joues et leurs nez étaient gaiement teintés de rose par le froid. Elles traversèrent le trottoir devant Razumov, qui poursuivit sa route avec un timide sourire intérieur. Ses filles lui ressemblaient. Le jeune homme sentit monter en lui une bouffée chaude de tendresse pour ses enfants qui ignoreraient toujours son existence. Elles allaient épouser bientôt des généraux et des gentilshommes de la chambre, et elles auraient des garçons et des filles qui connaîtraient peut-être un jour Razumov comme un vieux professeur célèbre et décoré, conseiller privé même, et gloire de la Russie. Voilà tout. Mais un professeur célèbre, c'est quelqu'un, et son mérite mettrait sur l'étiquette Razumov un nom honoré. Il n'y avait rien d'étrange, en somme, dans ce désir de notoriété qu'éprouvait l'étudiant, car la véritable vie d'un homme est celle que lui assignent dans leurs pensées les autres hommes, guidés par le respect ou l'amour naturel. En rentrant chez lui, le jour de l'attentat contre M. de P., Razumov était décidé à faire tous ses efforts pour gagner la médaille d'argent. En gravissant lentement les quatre étages de l'escalier sombre et crasseux qui montait à sa chambre, il sentait croître sa confiance dans le succès. le nom du lauréat serait publié dans les journaux du jour de l'an, et la pensée qu'il l'y verrait, probablement, obligea Razumov à s'arrêter court pendant une seconde. Puis il reprit son ascension en souriant de son émotion. « Ce n'est là qu'une ombre, se dit-il, mais le métal de la médaille sera une réalité palpable et un heureux début. » La chaleur de sa chambre parut agréable et encourageante à son appétit de travail. « J'ai devant moi 4 heures de bonne besogne, se disait-il. » Mais à peine avait-il fermé la porte qu'il tressaillit violemment. Noir contre la blancheur du grand poêle de porcelaine qui brillait dans l'ombre, se détachait une étrange silhouette, revêtue d'un manteau de drap brun à basque, ajusté et serré à la taille, les jambes prises dans de hautes bottes et la tête couverte d'une petite toque d'astrakhan. L'allure générale était souple et martiale. Razumov restait confondu, et c'est seulement lorsque l'homme eut fait 2 pas en avant, en lui demandant d'une voix calme et grave si la porte était bien fermée, qu'il retrouva la parole. « Aldine, Victor Viktorovitch, est-ce bien vous ?»« Oui, la porte est fermée, mais voici qui est pour le moins inattendu. » Victor Aldine, plus âgé que la plupart de ses camarades d'université, ne faisait pas partie du clan des étudiants laborieux. On ne le voyait presque jamais au cours, et les autorités le cataloguaient comme « esprit inquiet et faux », note détestable. Mais il jouissait auprès de ses camarades d'un grand prestige personnel et exerçait sur leurs pensées une véritable influence. Razumov n'avait jamais été intime avec lui. Ils s'étaient rencontrés de loin en loin dans des réunions privées d'étudiants et avaient même entamé une discussion. Une de ces discussions sur les grands principes chers aux esprits ardents de la jeunesse. Razumov aurait été heureux de voir son camarade choisir un autre moment pour venir bavarder. Il se sentait en train pour s'attaquer à la composition du concours. Mais, conscient de l'impossibilité qu'il y avait à renvoyer sans égard un homme comme Aldine, il usa de son ton le plus hospitalier pour le prier de s'asseoir et de fumer. Kirillo Sidorovitch, fit l'autre en enlevant sa toque, nous ne faisons peut-être pas exactement partie du même camp. Votre intelligence est plutôt tournée vers la spéculation. Vous ne parlez guère, mais je n'ai jamais vu personne qui pût mettre en doute la générosité de vos sentiments. On sent dans votre caractère une fermeté qui ne saurait aller sans courage. Razumov se sentit flatté et balbutia quelques mots pour exprimer sa satisfaction d'une opinion aussi heureuse. Mais Aldine leva la main. « C'est ce que je me disais, poursuivit-il, en m'avançant à travers le chantier de bois au bord de la rivière. C'est un caractère bien trempé, pensais-je, que celui de ce jeune homme qui ne laisse pas son âme voler au vent. Votre réserve m'a toujours intéressé, Kirillo Sidorovitch. Aussi ai-je cherché votre adresse dans ma mémoire. Et voyez ma chance, votre dvornik avait quitté sa loge pour traverser la rue et causer avec un conducteur de traîneau. Je n'ai rencontré personne dans le vestibule, pas une âme. En montant l'escalier, j'ai vu votre logeuse sortir de votre chambre, mais elle ne m'a pas aperçu. Elle a traversé le palier pour rentrer chez elle, et j'ai pu me glisser chez vous. Voici 2 heures que je vous attends, d'un instant à l'autre. » Razumov avait écouté ces paroles avec surprise, mais sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche, Aldine ajouta résolument « C'est moi qui ai supprimé de paix ce matin. » Razumov réprima un cri d'effroi. La sensation de la ruine de sa vie, due à la seule rencontre d'un semblable crime, s'exprima en lui par cette exclamation à demi-ironique « C'en est bien fait de ma médaille d'argent. » Aldine reprit, après un instant de silence, « Vous ne dites rien, Kirillo Sidorovitch. Je comprends votre silence. » Et à vrai dire, je ne pouvais m'attendre, connaissant la froideur de vos manières anglaises, à ce que vous me serriez dans vos bras. Mais qu'importe votre attitude, vous avez assez de cœur pour entendre le bruit des pleurs et des grincements de dents que cet homme a suscité dans le pays. C'en était assez pour détruire tous nos rêves philosophiques. Il arrachait la plante nouvelle, et c'est ce qu'il fallait empêcher. C'était un homme dangereux, un convaincu. 3 années de plus de son œuvre nous auraient replongé dans un demi-siècle de servage. Songez à toutes les vies gâchées, à toutes les âmes perdues pendant ce temps. Sa voix brève et assurée perdit brusquement son timbre, et c'est d'un ton sourd qu'il ajouta « Oui, frère, je l'ai tué, et c'est une exténuante besogne. » Razumov s'était affalé sur une chaise. Il s'attendait à toute minute à voir une foule de policiers faire irruption dans la chambre. Des milliers d'agents devaient être à la recherche de cet homme qui marchait là de long en large. Aldine s'était remis à parler d'une voix ferme et contenue. De temps en temps, il faisait un geste, posément et sans hâte. Il dit à Razumov sa pensée tendue pendant un an, ses semaines d'insomnie. Lui et un autre avaient été avertis, très tard dans la soirée précédente, par une certaine personne, des déplacements du ministre. Lui et un autre avaient préparé leurs engins, décidé à ne plus dormir jusqu'à ce que la chose fût faite. Ils avaient marché dans les rues toute la nuit, sous la neige, emportant leurs engins, sans échanger une parole. Lorsqu'ils voyaient venir une patrouille de police, ils se prenaient par le bras, affectant l'allure de deux paysans en goguette, titubant et parlant d'une voix rauque et avinée. Seuls ces singuliers intermèdes coupaient leur silence et leur marche incessante. Leur plan était fait à l'avance. À l'aube, ils se dirigèrent vers l'endroit où ils savaient que le traîneau devait passer. En le voyant venir, ils échangèrent un adieu assourdi et se séparèrent. L'autre resta au coin de la rue, tandis que Aldine se postait un peu plus loin. Après avoir lancé sa bombe, il s'enfuit, immédiatement entouré par la foule affolée que la seconde explosion avait dispersée. Bousculé par des gens ivres de terreur, il ralentit le pas pour laisser passer le flot, puis tourna à gauche, dans une rue étroite, où il se trouva seul. Il était stupéfait de cette fuite immédiate. Sa tâche était accomplie, il pouvait à peine y croire. Il lutta contre un désir presque irrésistible de se coucher sur la chaussée et d'y dormir. Mais cette faiblesse, faite d'une demi-torpeur, se dissipa rapidement. Il hâta le pas et se dirigea vers un des quartiers les plus pauvres de la ville, à la recherche de Zemianitch. Ce Zemianitch, comprit Razumov, était une sorte de demi-paysan à qui la location de quelques traîneaux et de leurs attelages avait procuré une petite aisance. Aldine s'arrêta dans son récit pour s'écrier « Ah, le garçon brillant, l'âme courageuse, c'est le meilleur cocher de Pétersbourg. Ah, voilà un homme !» Zemianitch consentait à conduire une ou deux personnes en toute sécurité et à n'importe quel moment jusqu'à la deuxième ou troisième station d'une des lignes du Midi. Seulement, on n'avait pas eu le temps de le prévenir la veille. On le trouvait, en général, dans un restaurant de bas étage des faubourgs. C'est là que Aldine avait été le chercher, mais en vain. L'homme était absent, et on ne l'attendait pas avant le soir. Aldine avait repris sa marche à l'aventure. Il vit, ouverte devant sa course errante, la porte d'un chantier de bois, et y pénétra pour échapper au vent qui balayait l'avenue glaciale. Sous la couche de neige, les grandes piles rectangulaires de bois coupés prenaient l'aspect de huttes de village. Le gardien du chantier, qui trouva l'étudiant blotti entre deux de ces piles, commença par lui parler d'un ton cordial. C'était un vieillard desséché qui portait l'un sur l'autre deux manteaux de soldat en loques. Il avait une figure comique de vieux sorcier, entouré d'un mouchoir rouge crasseux qui passait sous son manteau et par-dessus ses oreilles. Mais sa bonne humeur fit place tout à coup à la maussaderie, et il se mit, sans rime ni raison, à pousser des cris furieux. « N'allez-vous pas déguerpir d'ici, espèce de badaud? On les connaît, les ouvriers de votre espèce. Un grand diable, jeune et vigoureux, il n'est même pas ivre. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous ne me faites pas peur. Allez-vous-en avec votre sale regard. » Aldine s'arrêta devant le siège de Razumov. La souplesse de son corps et la blancheur du front au-dessus desquels les cheveux blonds montaient tout droit, lui donnait un aspect d'audace fière. « Il n'aimait pas mon regard, dit-il. Alors, me voici. » Razumov fit un effort pour parler avec calme. « Mais, pardonnez-moi, Viktor Viktorovitch, nous nous connaissons si peu. Je ne vois pas pourquoi vous... »« La confiance, » fit Aldine. Ce mot scella les lèvres de Razumov comme une main appliquée sur sa bouche, malgré les arguments venus en foule à son esprit. « Alors, vous voici, » murmura-t-il entre ses dents. L'autre ne perçut et ne soupçonna même pas le ton de colère. « Oui, me voici, et personne ne sait que je suis chez vous. Vous êtes le dernier homme que l'on puisse soupçonner, si je venais à être pris. Et c'est un avantage, n'est-ce pas? D'ailleurs, en m'adressant à un esprit supérieur comme le vôtre, je puis bien avouer la vérité. Je me suis dit que vous n'avez personne qui tienne à vous, aucun lien, aucun être qui puisse pâtir de ma découverte dans votre logis. Il y a déjà assez de maisons russes en ruine. Je ne vois pas non plus comment on pourrait se douter de mon passage ici. Si l'on m'arrête, je saurai tenir ma langue, quoi qu'on veuille faire de moi, conclut-il d'un ton farouche. Il se remit à marcher, tandis que Razumov restait assis, épouvanté. « Vous avez pensé ? » balbutia-t-il, écœuré d'indignation. « Oui, Razumov, oui, frère. Un jour vous nous aiderez dans notre œuvre. Vous me prenez maintenant pour un terroriste, un destructeur de tout ce qui existe. Mais dites-vous bien que ceux-là sont les vrais destructeurs qui attendent à l'esprit de progrès et de vérité, et non les vengeurs qui s'attaquent seulement aux persécuteurs même de la dignité humaine. Il faut des hommes comme moi pour faire de la place aux froids penseurs comme vous. Et ces hommes-là ont fait le sacrifice de leur vie, ce qui ne m'empêche pas cependant de désirer me sauver, si je le puis. Ce n'est pas ma vie que je veux mettre à l'abri, mais la puissance d'action qu'il y a encore en moi. Je ne vivrai pas dans l'oisiveté, oh non. Ne vous y trompez pas, Razumov. Les hommes comme moi sont rares. Et puis, un exemple comme celui-ci est plus terrible pour les oppresseurs quand son auteur disparaît sans laisser de traces. Ils restent tremblants, tapis dans leurs bureaux et leurs palais. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aider à disparaître. Ce n'est pas bien difficile. Il vous suffira d'aller tout à l'heure voir Ziemianitch de ma part, à l'endroit où j'ai été moi-même ce matin. Vous lui direz simplement, « Celui que vous savez voudrait trouver un traîneau bien attelé à la hauteur du 7e réverbère de gauche, à partir du haut de la rue Karabelnaya. Soyez là à 00h30, et s'il n'y avait personne à cette heure, que le traîneau descende 2 ou 3 maisons plus loin, pour revenir au même endroit 10 minutes plus tard. » Razumov cherchait la raison qui l'avait empêché d'interrompre depuis longtemps ce flot de paroles pour dire à l'autre de s'en aller. Était-ce faiblesse ou quoi? Il eut l'impression d'obéir à un instinct profond. Aldine devait avoir été vue. Il était inadmissible que personne n'eût remarqué les traits et l'aspect général de l'homme qui avait lancé la seconde bombe. Aldine était facile à reconnaître, et l'on avait dû, sur l'heure, donner son signalement à des milliers de policiers. Chaque minute rendait le péril plus imminent, et renvoyé à sa course errante dans la rue, il ne pouvait manquer d'être arrêté bientôt. La police saurait bien vite tout ce qui le concernait et échafauderait une conspiration dont la découverte supposée mettrait en grand péril tous les amis et connaissances du meurtrier. Des expressions inconsidérées, de petits faits innocents en soi, seraient tenus pour autant de crimes. Razumov se rappelait certaines paroles qu'il avait prononcées, des discours entendus, des réunions inoffensives auxquelles il avait pris part. Un étudiant ne pouvait guère se tenir systématiquement à l'écart sans devenir suspect à ses camarades. Razumov se vit dans une forteresse, interrogé, tourmenté, maltraité peut-être, puis déporté par ordre de l'administration. Sa vie serait brisée, vide de tout espoir. Il se vit, et c'est ce qu'il pouvait attendre de mieux, menant sous l'œil de la police une existence misérable dans quelque pauvre et lointaine ville de province, sans amis pour subvenir à ses besoins ou tenter quelques démarches susceptibles d'adoucir son sort, sans aucune des connaissances qui venaient en aide aux autres. Les autres, ils avaient des pères, des mères, des frères, des parents, des amis, prêts à remuer pour eux ciel et terre. Lui, il n'avait personne. Les juges même qui l'auraient condamné le matin auraient oublié son existence avant la nuit. Il vit sa jeunesse se faner dans la misère et le dénuement, ses forces s'en aller, son esprit devenir une chose vile. Il se vit, rasant les murs, misérable et râpé, et finissant par mourir seul dans un taudis sordide ou sur le lit ignoble d'un hôpital du gouvernement. Il frissonna, mais sentit descendre en lui le calme de l'amertume. Mieux valait, en somme, garder cet homme à l'abri des dangers de la rue, jusqu'au moment où il pourrait s'en aller avec quelque chance de salut. Oui, décidément, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Razumov n'en sentait pas moins qu'un danger perpétuel planerait sur son existence solitaire. On pourrait, aussi longtemps que le criminel vivrait, lui reprocher les événements de ce soir, aussi longtemps que dureraient les institutions présentes. Et ces institutions lui paraissaient, en ce moment, raisonnables et indestructibles, aussi harmonieuses qu'était discordante et atroce la présence de cet homme. Il le haïssait, cet homme. Et il dit doucement, « Oui, bien entendu, j'irai là-bas. Vous me donnerez des instructions précises, et pour le reste, comptez sur moi. »« Ah, vous êtes un homme, calme, froid comme de la glace, un vrai Anglais. D'où tenez-vous votre âme ? Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme vous. Écoutez, frère, les hommes comme moi ne laissent pas de postérité, mais leur âme n'est pas perdue. Il n'y a jamais d'âme tout à fait perdue. Elle travaille dans l'ombre. À quoi serviraient sans cela ces souffrances ? Le martyre, le sacrifice, la conviction, la foi. Que deviendra mon âme lorsque je mourrai de la mort qui m'attend, bientôt, très tôt peut-être ? Elle ne périra pas. Ne vous y trompez pas, Razumov. Ce n'est pas du meurtre. C'est de la guerre, de la guerre. Mon esprit animera des cœurs russes jusqu'au jour où le mensonge sera balayé du monde. La civilisation moderne est construite sur le mensonge, mais une vérité nouvelle sortira de la Russie. Ah, vous ne dites rien. Vous êtes sceptique. Je respecte votre scepticisme philosophique, Razumov. Mais ne touchez pas à l'âme russe qui vit en nous tous. Elle a un avenir, elle a une mission, je vous le dis. Aurais-je été amené sans cela à faire cette chose atroce, comme un boucher, au milieu de tous ces innocents, à jeter la mort, moi qui ne ferais pas de mal à une mouche ? Pas si fort, fit rudement Razumov. Aldine s'assit brusquement, et appuyant sa tête sur ses bras croisés, éclata en sanglots. Il pleura longuement. Le crépuscule s'était épaissi dans la chambre. Razumov écoutait les sanglots, immobile, perdu dans une stupeur sombre. L'autre redressa la tête et se releva, maîtrisant sa voix avec effort. Oui, les hommes comme moi ne laissent pas de postérité, reprit-il d'un ton plus calme. Mais j'ai une sœur qui vit avec ma vieille mère. Grâce à Dieu, j'ai pu les décider à partir cette année pour l'étranger. Ce n'est pas une mauvaise petite fille que ma sœur. Il y a dans ses yeux plus de loyauté que dans ceux d'aucun être humain qui a vécu sur cette terre. Elle se mariera bien, je l'espère. Elle aura des enfants, des fils peut-être. Regardez-moi. Mon père était un fonctionnaire provincial du gouvernement et possédait aussi un petit domaine. C'était un bon serviteur de Dieu, un vrai russe à sa manière. Il avait l'âme de l'obéissance. Mais je ne tiens pas de lui. Il paraît que je ressemble au frère aîné de ma mère, un officier fusillé en 1828, sous Nicolas, vous savez. Ne vous ai-je pas dit que c'est la guerre ? Mais Dieu de justice, c'est une exténuante besogne. Razumov, de sa chaise où il était assis, la tête appuyée sur la main, éleva une voix qui paraissait sortir du fond d'un abîme. « Vous croyez en Dieu, Aldine ?»« Vous voici accroché à des mots qu'on laisse échapper. Qu'importe ! Quelles étaient donc les paroles de cet Anglais ? Il y a une âme dans les choses. » Le diable l'emporte, je ne me souviens plus. Mais il disait vrai. Lorsque se lèvera le jour des penseurs tels que vous, n'oubliez pas ce qu'il y a de divin dans l'âme russe. Et cela, c'est la résignation. Respectez-la, au moins, dans votre agitation intellectuelle, et ne laissez pas l'arrogance de votre sagesse intercepter le message qu'elle adresse au monde. Je vous parle maintenant comme un homme qui a une corde autour du cou. Pour qui me prenez-vous ? Pour un révolté ? Non, c'est vous, les penseurs, qui êtes les éternels révoltés. Moi, je suis un résigné. Lorsque s'est imposée à moi la nécessité de cette lourde tâche, et que j'ai compris qu'il fallait l'accomplir, qu'ai-je fait? Ai-je exulté? Ai-je été fier de mes projets? En ai-je pesé la valeur et les conséquences? Non, je me suis résigné. J'ai pensé, que la volonté de Dieu soit faite. Il se jeta tout de son long sur le lit de Razumov, et appuyant sur ses yeux le dos de ses mains, il resta parfaitement immobile et silencieux. On n'entendait même pas le bruit de sa respiration. La paix morte de la chambre resta absolue, jusqu'au moment où, dans l'ombre, s'éleva la voix morne de Razumov. « Aldine !»« Oui, » fit l'autre, sans bouger dans l'obscurité dense qui le rendait maintenant invisible. « N'est-il pas temps pour moi de partir ?»« Oui, frère !» La voix de Aldine résonnait comme s'il eût parlé dans un rêve, au-dessus du lit où il restait immobile, dans l'ombre. L'heure est venue de tenter la destinée. Il s'arrêta, puis donna à Razumov quelques instructions, avec la voix calme et impersonnelle d'un sujet endormi. Razumov se préparait sans un mot de réponse. Comme il quittait la chambre, la voix s'éleva du lit à nouveau. « Dieu soit avec toi, âme silencieuse !» Sorti sur le palier avec précaution, Razumov ferma la porte et mit la clé dans sa poche.